Bonjour à tous nos auditeurs. Bon midi, les midis. Une minute, c'est l'émission On en jase sur Boulevard 102 avec Jeff Fortin, Pascal CV. Évidemment, vous aurez Antonine Iaccarini dans le caucus Iaccarini. Grosse émission aujourd'hui parce qu'on va avoir notre collègue Mathias qui, aux alentours de 12h25, était à la conférence de presse de François Legault lorsqu'il est sorti tout sourire de sa rencontre avec Bruno Marchand. Savez-vous quoi? On remet le troisième lien à l'Est dans l'actualité. Hey, c'est-tu le fun?
Yay!
Abracadabra! Oh. On est à l'Est! Wouhou! Stephen Blaine saute de joie partout! C'est moi qui l'a demandé!
T'as l'air vraiment content.
Ben, j'aime ça.
Je comprends pourquoi Stephen Blaney n'était pas disponible pour nous avant la semaine prochaine. Avec des annonces comme ça, il était occupé.
Mais là, il va pouvoir sortir Stephen Blaney dans les médias et dire « Je vous l'avais dit! »
Mais l'affaire est que... Comment est-ce que Stephen Blaney peut avoir fait tourner la roue? C'est pas à lui seul, ce remaniement de troisième lien-là.
De toute façon, ça avait commencé avec Jonathan Julien, qui a reporté justement la date où on allait présenter le tout. À ce moment-là, je me souviens, dans Marceau le matin, j'avais dit, vous savez-vous quoi? La CAQ va nous promettre un troisième lien à l'Est pour l'élection de 2026. Yannick était parti à rire. Il avait dit, sais-tu quoi? T'as raison, Colin Fortin. C'est ça qui va arriver. J'ai plein de gens de la CAQ qui m'avaient texté pour me dire, bah, c'est vendredi, hein? Tu t'amuses, etc. Non, je ne m'amuse pas, je vois votre jeu. Et qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est ça qui va arriver au mois de mars.
Et
on
voilà.
Va nous présenter un beau tracé à l'Est. Donc, même si mes amis de la CAQ me disaient « Tu nous mets en pleine radio! » Non. Je maintiens que c'est ça qui va arriver. Stratégie électorale qui ne fonctionnera pas, mais stratégie électorale quand même que la CAQ va utiliser. On va également, je vais vous présenter un dossier. Je suis tombé là-dessus hier. Merci à une source anonyme qui m'a envoyé ceci hier. C'est une personne très, très, très malveillante. Je dirais même une personne que je déteste foncièrement, même si je ne l'ai pas rencontrée, qui fait des vidéos avec des personnes itinérantes, leur donne des joints de potes, leur donne de l'alcool et son but, c'est tout simplement de prouver que les itinérants sont à la rue par leur faute, par leur problème de consommation. C'est une mode qui a commencé aux États-Unis, qui là arrive à Québec et les personnes itinérantes ne savent même pas qu'ils sont filmés parce que le monsieur, il a des lunettes avec une caméra, donc avertit même pas les personnes qui sont filmées, les ridiculisent sur des médias sociaux. Alors, je souhaite ardemment que la police réussisse à mettre la main sur cet individu-là, mais on va en parler tout à l'heure.
Très bon dossier, honnêtement. J'ai vu ça dans le plan aujourd'hui. Je me dis, oh, Colin, OK, on est rendu là. Puis en plus, Jeff, dans tout ce qui se passe en situation d'itinérance, je recevais dans les dernières heures des images de commerçants. Mm-hmm. Donc, se côtoie ce genre d'individu qui essaie de prouver quelque chose qu'il n'a pas à prouver. Là. Ça dépend de chacun des parcours de ces personnes-là en situation d'itinérance. Puis en plus, tu as des gens qui deviennent de plus en plus tannés de comment ça se passe sur la rue. Fait que tu leur rajoutes ça dans le bagage, tu es un peu biaisé, tu es un peu émotif par ce que tu vis, toi, puis tu te fais saccager, tout ça. Ça peut alimenter des tensions.
Ben oui, on reçoit par texto. Justement, c'est pas illégal de filmer les gens sans consentement. Oui, c'est totalement illégal ce qui est fait à cet effet-là. Et aussi, on va parler avec Marc Ranger vers la fin de l'émission, spécialiste en relations syndicales. Hey, l'Association des professeurs de Montréal à la défense de qui? Des enseignants de Bedford qui perdent leur brevet. On va aller les défendre. C'est tout croche que le gouvernement fait. Je peux pas croire.
Oh, mon Dieu.
Je peux pas croire, mais là, ce qui est bien, c'est que je vais vous faire entendre, il y a une enseignante, Tania Lompré, à Montréal, qui a décidé de sortir à visage découvert. Elle a donné une entrevue à TVA ce matin, puis elle a dit, savez-vous quoi? Mon syndicat, ça n'a pas d'allure ce qu'il fait, puis j'espère que les enseignants, comme moi, vont sortir puis vont dire à leur syndicat, on ne les défend pas.
Mais c'était la solution de certains profs lors de la dernière grève, en disant, là, ce qu'il faudrait défoncer, c'est ce devoir-là de discrétion par rapport à ce qui est discuté un des syndicats, mais qui est dans nos classes aussi. Mm-hmm.
Fait qu'on s'excuse, on va peut-être être fâché un peu aujourd'hui. Hey, pourtant, moi, je suis good vibe. C'est Antonine, assez fâché hier.
Oui, c'est ça. J'ai mis le ton pour toute la semaine, visiblement. Ah, mais là, c'est pas de notre faute, c'est l'actualité. Est-ce qu'elle est aussi, là? On est des victimes, nous, là-dedans.
Pas là. Des victimes du... Le caucus.
Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Dites-vous là, ils sont chiants, les 7, c'est de la faute à Iaccarini, hein, Pascal?
Non, on est responsable de nos frustrations, mais des frustrations collectives, ça, par exemple, ça fait du bien, ce genre de défouloir.
En effet. Et là, parlant de frustration, moi, je peux pas croire ce que j'ai lu, à peu près de ça, 30 minutes, Vladimir Poutine, qui a fait patienter, j'oublie son nom, là, mais le la personne qui représente le président américain qui se retrouve présentement à Moscou, en Russie.
Le secrétaire d'État.
Le secrétaire d'État, M. Witkoff, je crois. Et là, il l'a fait patienter dans l'hall d'accueil. Il a dit « Attends une minute, mon homme, moi, je vais aller donner un point de presse. » Puis dans le point de presse, il a dit « Ben, si l'Europe est prête à faire la guerre, on est prêt. Let's go, on y va. »
C'est Witkoff, puis ça a été mon sujet avec, avec Max. Ça, c'est super important ce qui se passe de l'autre côté.
Antonine, ça n'a pas de sens là, que Vladimir Poutine se permette aujourd'hui, devant les médias russes, de lancer ce défi-là à l'Europe.
Ben oui, puis de toute façon, je veux dire, il y a des jeux psychologiques dans ce que fait Vladimir Poutine. Ce qu'il fait avec, avec l'émissaire américain, c'est un jeu mental. Là. Je m'excuse de ma mauvaise traduction. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
Il a toujours fait ça. Juste pour vous donner un autre exemple des techniques de Vladimir Poutine pour faire de l'intimidation, pour montrer que c'est lui qui domine le jeu. À l'époque où Angela Merkel était la chancelière allemande, elle était terrorisée par les chiens, Angela Merkel. Et Vladimir Poutine le savait, il sait tout de toute façon. Puis il y a des services secrets très efficaces de toute façon en Russie. Il a déjà été le patron des services secrets. Alors, c'est quelqu'un qui est au courant des faiblesses de tous et chacun. Et il faisait exprès pour la rencontrer en compagnie de ses chiens. Il y avait des chiens dans la pièce, il apportait des bergers allemands, des choses comme ça, pour intimider Angela Merkel. Donc, c'est quelqu'un qui est foncièrement comme ça. Ça, c'est au niveau humain. Maintenant, au niveau géopolitique, on le sait, là, le jeu de Vladimir Poutine, ce n'est pas, c'était pas seulement d'avoir la Crimée et le Donbass en Ukraine. Là. C'est pas ça, là. C'est une zone d'influence. Regardez une vieille carte. Moi, j'ai un vieux globe terrestre à la maison avec l'URSS.
La vieille carte de l'URSS.
Ça, dans la tête de Vladimir Poutine, c'est son territoire. Peu importe que maintenant ce soit devenu des pays indépendants, la Biélorussie, l'Ukraine, les pays baltes, tout ça, aucune importance. C'est sa zone d'influence.
Il est revanchard d'avoir perdu tout ça. Pour lui, la seule mission qu'il se donne, est-ce que je me trompe, depuis sa présidentielle, c'est d'aller récupérer ces territoires-là.
Absolument, non, tu as 100% raison. Et de dominer ses adversaires et d'être dans un jeu d'absolutisme. Là. C'est-à-dire que, puis là, je m'excuse à mes grands mots, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne comprend que le langage de la force. Donc, il n'y a pas de compromis ou quoi que ce soit. Puis, c'est difficile de ne pas atteindre le point Godwin quand on parle de Vladimir Poutine. Le point Godwin, c'est quand une discussion, ça va nécessairement vers les nazis et Adolf Hitler. Mais quand on se rapporte aux années 30, moi, je suis une passionnée d'histoire, surtout de la Deuxième Guerre mondiale, t'sais, pendant très longtemps, on a voulu faire des compromis avec Adolf Hitler parce qu'on ne voulait donc pas retomber dans une guerre. On venait de sortir de la Deuxième Guerre mondiale et on faisait des compromis, puis c'était ce qu'on appelait l'apaisement. Et cette expression-là est restée en politique internationale et elle revient en force avec Vladimir Poutine parce qu'on n'a pas envie de tomber en guerre directe avec la Russie, notamment parce que tout le monde a des armes nucléaires dans cette affaire-là, puis c'est pas super intéressant pour l'humanité, on s'entend. Donc, on essaie toujours de trouver par tous les moyens des façons de contourner la problématique. Et ceux qui se demandent pourquoi on n'a pas envoyé de soldats, par exemple, en Ukraine, ben c'est ça, c'est que là, tu tombes en guerre directe contre la Russie et on essaie d'apaiser les choses pour éviter ça à tout prix. Mais lui, le message qu'il envoie, c'est « Moi, je ne vais pas vous apaiser, les chums. »
Non, moi, j'y vais, je fonce. Comment l'Europe va réagir?
Comment l'Europe va réagir à ça? Ça va être des propos qui vont être dénoncés. C'est sûr que les pouvoirs sont limités. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de dire une chose comme celle-là. Il peut y avoir des sanctions supplémentaires qui sont mises, mais l'effet des sanctions là, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, on a vu que c'était assez limité comme effet. Et il demeure très fort chez lui en Russie. Les gens croient absolument à la propagande de Vladimir Poutine.
Sinon, tu te fais emprisonner. Pour ceux qui ont eu le courage au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ben, ils sont allés sur les places publiques. On n'a jamais entendu parler d'eux. T'sais.
Oui, il arrive des petits accidents. Oui, ils tombent par la fenêtre, ils tombent dans un fleuve.
Puis par rapport à la réaction de l'Europe, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que même si tu décides de réagir à ça, tu peux donner en fait l'arme politique à Vladimir Poutine pour faire ces changements-là ou lui partir la guerre ou lui répondre en se disant « Ben, vous voyez, ils me cherchent, ils m'ont trouvé. » C'est super sensible, ces choses-là. Puis ce qui est sensible aussi sur un autre plan, puis je vais juste faire une mini-parenthèse, c'est au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on entendait parler du dirigeant chinois Xi Jinping parce qu'on regardait dans son ambition de réunifier Taïwan avec le continent par une invasion de la Chine aussi sur Taïwan. Ce que fait Vladimir Poutine dans son devoir et son envie de conquérir et quand même regarder de l'autre côté par d'autres dirigeants. Donc, si les conséquences ou encore les répercussions de ces actes d'invasion à Vladimir Poutine ne sont pas sanctionnées, ne sont pas décriées, ne sont pas bien pointées du doigt. T'en as d'autres aussi de ce type de dirigeants-là qui vont voir une porte ouverte, puis ça aussi, c'est regardé beaucoup par les experts.
En effet. On passe en politique canadienne. Ce grand défenseur de la langue française qui est de retour au niveau du Conseil des ministres au Canada, on l'écoute, c'est M. Mark Miller.
Est-ce que vous considérez qu'il y a un déclin du français au Québec?
Écoutez bien sa réponse.
C'est clair que le français est menacé au Québec. Là,
est-ce qu'il y a un déclin ou le français est menacé?
C'est clair que le français est menacé au Québec.
Mais il n'y a pas de déclin.
C'est clair, net et précis.
C'est pas clair, net et précis, non? Là, c'est notre nouveau ministre de la Culture.
Oh, misère.
Ça va bien?
Bon, OK.
On est connecté sur le Québec du côté de Mark Carney?
Tout ça démontre à quel point M. Carney ne comprend pas le Québec. Puis en plus, quand on regarde la nomination de Mark Miller, il a été ministre... un des ministères des Affaires autochtones à Ottawa, vous m'excuserez, là, je ne me rappelle plus exactement. Je pense que relation avec la couronne.
Il était ministre de l'immigration aussi par la suite.
Et ministre de l'immigration. Et quand il a été nommé ministre de l'immigration, on était plusieurs à sourciller en se disant OK, ça va clasher avec Québec parce que Mark Miller, c'est le plus multiculturaliste. J'ai envie de dire, là, c'est le woke des woke là, du côté des libéraux fédéraux. Et effectivement, ça a clashé à de nombreuses reprises. Et son hésitation à dire que le français est en déclin, il a fini par dire que le français est en déclin comme langue maternelle. Et ça, c'est... Il y a une gang de monde qui disent que c'est pas grave s'il y a un déclin du français de langue maternelle parce que, par exemple, s'il y a des immigrants qui parlent leur langue à la maison, tant qu'ils apprennent le français et qu'ils l'utilisent dans l'espace public et qu'on respecte la loi 101, il n'y en a pas de problématique. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que ça met une pression supplémentaire sur la défense de la langue française. Si on accepte trop, par exemple, d'immigration qui est non francophone.
Exactement. Je vais juste citer quelques statistiques très intéressantes. On prévoit sur l'île de Montréal que les francophones seront à 47 % en 2031. Donc, majorité pour les anglophones ou les gens qui proviennent d'autres nationalités. On a également, sur l'ouest de l'île de Montréal, les fins de semaine, 34 % de réponses dans les commerces. Et ça, c'est à l'heure actuelle uniquement en anglais.
Absolument.
34 % Les jeunes de 18 à 34 ans, ça, c'est à l'échelle de la province, consultent seulement 44 % même pas consultent, écrivent leur communication sur les médias sociaux. Donc, on parle de X, Facebook, Instagram uniquement en anglais à 44 %. Et les travailleurs qui travaillent uniquement en français présentement au Québec sont à 58 %.
Mais ça va bien,
la langue?
Mais ça va super bien. Bon, M. Miller a quand même dit le français est menacé, mais on sent qu'il n'y a pas de conviction là-dessus.
Non.
Puis M. Miller parle très, très bien français lui-même, mais c'est un anglophone, c'est un Canadien, c'est un multiculturaliste. Bon. Maintenant, on s'entend que quand on vote pour les libéraux, on sait pourquoi on vote. Là. Vous n'attendez pas à avoir du grand nationalisme là, mais dans le cas de Mark Miller, c'est juste une coche de plus. De mettre un ministre comme celui-là aux langues officielles, c'est juste tout simplement de dire au Québec, tu sais, dans le fond, c'est pas vraiment important. Puis c'est sûr que cette semaine, on voit Mark Carney qui flirte avec Daniel Smith. L'Alberta a donné 2 sièges à Mark Carney. Le Québec en a donné 44. Mm-hmm. Il y a des gens dans des comtés qui ont décidé de voter pour les libéraux plutôt que le Bloc. Ouais. Il y a des députés du Bloc qui ont sauté puis qui, au profit de candidatures libérales et pas toujours les plus prestigieuses, je me permets de le dire. Là, notamment, on peut penser à un candidat qui, ouvertement, avait eu des grosses problématiques de pornographie sur ses plateformes de médias sociaux, puis ils l'ont élu pareil. Mark Carney pourrait démontrer un petit peu plus de sensibilité, ou nommer quelqu'un aux langues officielles qui est complémentaire à lui dans son niveau de méconnaissance ou de manque de sensibilité. Mais il a décidé d'y aller avec Mark Miller. Il n'y a pas juste des défauts. Mark Miller, c'est quand même quelqu'un qui est proactif, qui est travaillant, qui est accessible, qui fait des entrevues, qui va au bat pour ses décisions. Alors que si on regarde, par exemple, la ministre actuelle de l'immigration fédérale, êtes-vous capable de m'en nommer? Puis la bonne réponse, c'est non. Là. Je veux dire, on la connaît pas.
Non, je la connais
c'est
pas.
Madame Diable.
Moi, ouais, je l'ai faite. Je l'ai vu intervenir en chambre l'autre jour. Mark Miller avait une belle chance de se reprendre ce matin, par contre, et voici ce qu'il a dit.
Mais le français, je vais le répéter, immensément fragile en Amérique du Nord, il faut le protéger.
Ah, en Amérique du Nord?
Oh, Mais c'est parce qu'il ne faut pas, Jeff, dans la pensée de ce genre de personnes.
Est-ce que le français est fragile en Alabama? Bon, sûrement. Non, au Texas?
C'est toujours important d'enlever toute notion de nation. Si tu comprends, c'est toujours ça. Diluer l'affaire, là, puis oui, c'est sûr que dans l'absolu, là, oui, là, là, là. C'est exactement ce genre...
Mais la Californie, c'est démocrate. J'aimerais ça qu'il y ait un ministre... Ouais, un ministre de la langue française.
Écoute, c'est complètement hallucinant, des propos comme ceux-là. Donc, on verra comment il va décliner sa vision en matière de langue officielle et de patrimoine. J'ai hâte de voir le niveau de collaboration aussi avec son homologue québécois, Mathieu Lacombe, qui est un ministre de la Culture. C'est drôle, parce que Mathieu Lacombe, il est issu de l'ADQ à la base. C'était pas nécessairement... Tu sais, il y en a qui arrivaient plus du PQ là, à la CAQ. C'était pas le plus nationaliste, la gang, mais au fur et à mesure... Qu'il a pris ses aises dans le ministère de la Culture, on a l'impression qu'il y a eu un éveil un peu plus nationaliste. Et quand on surveille ses plateformes de médias sociaux, là, c'est quand même intéressant de voir qu'il est de plus en plus résolument nationaliste. Ça risque de clasher là, avec un Mark Miller. Puis tu sais, je dis pas qu'avec Pablo Rodriguez, puis Stephen Guilbeault, c'était toujours parfait, mais là, on est ailleurs, là.
Ouais, on s'ennuie pas vraiment de Pablo au niveau du gouvernement fédéral.
Mais là, il est occupé. Là, Pablo,
il est occupé,
là,
exactement. Avant de parler de Pablo, Joël Lightbaum, nommé comme un lieutenant du Québec, député ici de Louis Hébert, on écoute ce qu'il avait à dire sur Radio-Canada en réponse à cette question.
Ça m'amène à parler de ce rôle-là. Est-ce que vous représentez le Québec au sein du cabinet ou vous représentez le cabinet au Québec?
Premièrement, le Québec au sein du cabinet. Et deuxièmement, évidemment, il y a une partie de représentation aussi de bien expliquer nos politiques. Puis c'est un défi de la communication en politique. Ça fait quand même un certain temps que j'œuvre en politique. C'est que je dirais que c'est un peu des deux, mais au premier chef, c'est vraiment de porter la voix des Québécois, les intérêts des Québécois à Ottawa.
J'aime beaucoup M. Lightbound, mais c'est la réponse numéro 2 que je prends, moi. Il est bien plus là pour dire aux Québécois, regardez ce que Mark Carney fait de bon, fait de beau. Il est bien plus là pour les libéraux. Puis c'est pour ça que Stephen Guilbeault est parti, parce que si Mark Carney écoutait vraiment les préoccupations des Québécois, il n'y aurait pas eu cette entente-là sur le pipeline avec l'Alberta.
Tu sais, envoyer le lieutenant du Québec défendre des décisions anti-environnement quand tu as été... Tout ton engagement a tourné toujours autour de l'environnement. Ça n'avait pas de bon sens pour Stephen Guilbeault, qui n'était pas un lieutenant qui était très présent, cela dit, dans son rôle. Ce n'était pas quelqu'un qui était très omniprésent. Le gouvernement du Québec avait plutôt tendance à se tourner vers François-Philippe Champagne ou vers Mélanie Joly,
oui, quand
il y avait un enjeu. On verra si M. Lightbound, ce sera différent. Mais le rôle de lieutenant du Parti libéral, du gouvernement libéral au Québec, il faut être bien clair, là, c'est de défendre les décisions du gouvernement,
ben oui,
au Québec.
Parce que là, je t'avais fait jouer l'extra au complet, là t'aurais attendu Joël Lightbound repartir. Ouais. Vous savez, une économie forte, puis on va diversifier, puis là, on est là pour...
Mais
là, je l'ai pas mis au complet, parce qu'on sera encore en train de l'écouter tellement Mark Carney est bon, puis il est fin.
Bon, ben écoute, M. Lightbound a attendu très longtemps avant d'avoir sa chance d'entrer au Conseil des ministres. M. Trudeau ne l'a jamais fait rentrer au Conseil des ministres. Il n'est pas associé à cette époque-là. M. Lightbound avait même fait une sortie contre son gouvernement pendant la pandémie. Donc maintenant, il joue ce rôle vraiment important parce que, bon, évidemment, le mandat qu'il avait reçu était déjà hyper important. Puis je trouve important pour les Québécois. C'est-à-dire qu'on a quand même ce sentiment d'envoyer beaucoup d'impôts et de taxes à Ottawa et d'avoir un gouvernement qui travaille souvent contre nos intérêts. Ouais. Joël Lightbound est responsable de rendre l'appareil étatique plus efficace. C'est un gros mandat qui lui a donné. Ça n'a pas l'air aussi prestigieux que les principaux qu'on connaît, tu sais, finances, affaires étrangères, tout ça, mais c'est quand même hyper important. En ajoutant le rôle de lieutenant, c'est vraiment la confirmation qu'on considère que Joël Lightbound est un poids lourd dans ce gouvernement-là. Je ne sais pas comment il va s'entendre avec Québec, parce qu'il a été très critique aussi envers le gouvernement de la CAQ, étant de Québec, évidemment, sur les dossiers de transport, ça a clashé quelques fois. Je pense pas qu'il ait changé d'idée sur ces questions-là. Et c'était un style quand même un peu plus tranchant, M. Lightbound, que M. Duclos, par exemple.
Oui, ça, c'est clair.
À l'époque, c'était M. Duclos, c'est un autre style. Lightbound, ouais. Il est très constructif, mais c'est quand même quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche.
Maintenant, Pascal, Antonine, j'ai quelque chose à vous demander. Ouais, c'est un peu gênant, mais je vais vous le demander quand même. Auriez-vous 500$ pour moi? C'est pour un ami?
Non, j'ai pas ça.
C'est pour un ami.
Je dis pas pis... pourquoi, puis c'est qui l'ami?
Ben,
c'est qui ton ami?
C'est pour un ami, puis c'est parce que si vous me donnez le 500$, puis lui, il accède au pouvoir, je vais faire rentrer au gouvernement.
Comment, comment, où ça, puis, par quelle porte, de quoi?
Puis là, 500$, vous comprenez, je pourrais pas vous le redonner en argent, mais...
C'est pas cher, par exemple. Pascal, pense une seconde. 500$ pour rentrer au gouvernement. Ouais. T'es rentré dedans, là.
C'est quoi vos restos préférés?
Ou rentrer
c'est
avec
quoi
un...
vos, c'est quoi vos restos préférés? Parce que 500$, je vais pas vous leur donner.
En restaurant?
Ouais. Tu sais, mettons qu'on...
Petite carte cadeau, là.
Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, rentrer au gouvernement, c'est que tu vas avoir des contrats.
OK. Des contrats de quoi?
Ben des contrats, là, toi.
Ben, je vais me partir d'une compagnie
bricolage, toi, hein? Il y a Karine bricolage.
Moi, toiture, ta carrière.
Toiture. Il y a des immeubles à faire.
500$ pour avoir des contrats de toiture.
Hey, imaginez, on développe là, le logement.
Dit que tout ce qui est trop beau pour être vrai, c'est du crossaillage.
Du crossaillage? Ouais. Ben voyons donc, ça ne peut pas être du crossaillage. L'ancienne ministre libérale Lucie Charlebois nous l'a dit à Mario Dumont ce matin.
Je leur dis derrière un clavier, c'est tellement facile. T'sais. C'est tellement facile. Si tu veux affirmer des choses, donne-les ton nom.
Ouais, là, ce qu'on comprend, c'est que l'entrepreneur... qui a été vérifié par les journalistes du bureau d'enquête, mais a crainte de représailles, là, donc veut pas que son nom soit identifié. C'est juste
ben,
que...
Il est capable de faire des choses tout croche, mais il veut pas se faire identifier. Mmh. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal que maintenant, en société, on croit plus les tout croches que ceux qui marchent droit.
Ah, Parti libéral marche droit!
Eh là là!
Madame Charlebois, je savais pas ça que le Parti libéral marche droit, crime! Parti de la corruption, tabarouette, c'est de retour!
Écoute, bon, qu'est-ce que ça nous démontre, cette affaire, dans le Journal de Montréal ce matin?
500$, Pascal, 500$.
500$, pas cher, pas cher!
Mais, non, pas cher.
Mais là, on était dans Brownies, au début, c'était 100$, ouais. Là, 500. Qu'est-ce que ça nous démontre? Ça nous démontre que... bon, ça nous démontre pas que... Pablo Rodriguez était au courant que c'est un système qui est à grande échelle. On peut pas affirmer toutes ces choses-là. Ça nous démontre que quand tu grattes, tu trouves.
Ben oui.
Parce que je regardais ça là, dans les dernières semaines, je me disais, moi, si j'étais au bureau d'enquête ou si j'étais le Parti libéral, parce qu'il aurait pu aussi faire des vérifications avec les listes de donateurs.
On le rappelle, avril dernier. Les textos qu'on a vus dans le journal il y a deux semaines, eux, les avaient.
Ils n'ont
rien fait.
Déjà.
Le Parti de la corruption, ils l'ont caché pour s'assurer que personne ne le sache.
J'essaie de comprendre c'est quoi le raisonnement. Okay? Toi, tu es chef ou tu es président ou tu es DG d'un parti. Puis là, tu as ça qui circule. Tu dis, hey, ça va passer. Ça sortira pas, ça.
Ah oui, tu es le président. Là, tu dis, hey, guys, écoute-moi bien. On laisse ça
pas
là.
Pas sérieux, ça. Ça
sortira vraiment pas. Personne. Puis, hey, Pablo pour la victoire!
Ben, moi, je me demande s'ils avaient les yeux fermés pour faire confiance à leur équipe. Là. Ça se peut-tu que ça soit aussi naiseux que ça?
Honnêtement, il faut rendre à César ce qui revient à César. Là. Je peux concevoir qu'une équipe ne soit pas capable de contrôler 100% de tous les gens qui t'aiment là, en tout temps. Okay? T'sais, moi, je pourrais décider là, demain matin de prendre ma carte d'un parti que j'aime pas, par exemple, puis d'aller faire quelque chose de tout croche, puis appeler un journaliste. Donc, il faut faire attention quand même. Mais là, c'est parce que ça fait plusieurs choses qui s'accumulent. Et on a Pablo Rodriguez qui est toujours « Je le sais pas, j'étais pas là, je sais pas qui êtes-vous, qui suis-je, où vais-je, on sait rien. » Puis, honnêtement, ça donne pas une impression de grand leadership. Et... surtout, le parti aurait dû partir des vérifications et démarrer cette enquête-là. C'est juste que tu dis, « Ah, c'est pas encore dans le journal. Peut-être que ça sortira jamais. » Puis t'espères.
Oui.
Parce que c'est sûr que t'es le PLQ, tu dis, « Bonjour, je convoque une conférence de presse pour vous annoncer qu'il y a eu du fling-flang. » On l'a découvert. Tu sais, ça tente pas de retourner
non,
là.
Non, non.
Mais vous avez fait du déni, la gang. Ça allait arriver, puis là, vous contrôlez absolument rien, pas le message, et vous êtes en train de brûler votre chef. Ben raide avec ça. Donc,
Pablo n'est pas en contrôle, mais pas pour deux scènes. Mathias Turcotte est au bout du fil. On va aller avec lui prochainement, parce qu'il était au point de presse de François Legault. On a des extraits à vous faire jouer de ce point de presse. Je vous le rappelle, on revient avec un troisième lien. À l'est, peut-être bien, on ne sait pas trop. Yves François, on va l'écouter là-dessus. Mais avant, je sais qu'on approche Noël, mais je veux vous faire entendre un message qui date du 31 mars 2024 de la Pâque. T'sais, vous savez,
la
dans
Pâque.
Notre État laïque au Québec, vous savez, dans ma laïcité où j'enlève tout, Pierre Poilievre m'a parlé de la Pâque le 31 mars 2024. Ça va peut-être me faire revenir à la religion. Écoutez ce beau message.
He is risen. Today, Christians celebrate the resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ.
Jesus Christ.
Through his sacrifice, he paid the ultimate price for our sins and overcame the power of death itself so that we could rejoice in his promise of everlasting life. The joy of Easter unites all Canadians. It reminds us that although we face hardship, we have the promise of a new beginning, of redemption, and of the hope of eternal life. As families come together to attend church services, paint Easter eggs, and enjoy some much-needed rest. May you be refreshed.
Hallelujah!
Les œufs de Pâques, c'est tel que tel, mais la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur...
Et il a donné sa vie pour nous.
C'est comme si vous l'incluez.
OK, là, Antonine, je fourre.
Vous l'incluez autant les gens qui mangent le chocolat que les grands croyants de Jésus.
C'est ça, ça n'a pas de bon sens. Pascal, je ne sais pas si tu en as encore un parti politique au Canada, mais moi, j'en ai plus. Mark Carney nous tourne le dos puis il nous rit au Québec en mettant Mark Miller, ministre de la Culture. Puis là, Pierre Poilievre, lui, il me parle de Jésus-Christ qui ressuscite.
T'aimes
quand,
pas ça?
Quand le Bloc puis les libéraux disent « Ouais, on pourrait peut-être regarder les textes bibliques et faire en sorte que ça soit pas enseigné parce que c'est des messages haineux. » Non, 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 c'est la religion!
Écoute, bon, je partage ton désarroi, évidemment. Toujours embêtant au fédéral, honnêtement, quand vient le temps de voter. Des fois,
ben là, je suis
bon,
en train de devenir souverainiste boutillard. Je vais voter pour le Bloc.
C'est juste normal, Jeff, OK? Plus tu t'intéresses à la politique puis à l'histoire, plus tu deviens souverainiste. C'est juste la normalité. Moi, je t'accueille à bras ouverts.
Quel sourire, là, sur Twitch. Ben, allez voir ça, checker.
C'est juste logique. Tout
j'ai même entendu.
Oui!
OK, donc je reviens un peu en arrière pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ottawa. C'est qu'il y a un projet de loi qui élargit la notion de crime haineux en ce moment qui a été déposé par le ministre de la Justice, M. Fraser. Et le Bloc en a profité pour réitérer une demande qu'ils font depuis vraiment longtemps, c'est de retirer l'exception religieuse. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu prends un porte-voix dans une manifestation et que tu cries « Allah veut qu'on tue tous les infidèles et nous allons les exterminer jusqu'au dernier », genre de propos qu'Adil Charkaoui a déjà tenu, ben t'es pas accusé parce que, selon le code criminel, c'est ta religion. C'est à cause de ta religion qui fait que tu dis des affaires de même.
C'est ça.
Fait que c'est correct.
Oui, bon, fait que moi, je vais me créer une nouvelle religion, supposons, anti-pédophile, puis je vais pouvoir les menacer de mort, puis ça sera pas grave.
Non, mais c'est ça, parce que c'est ta religion. C'est ta religion, c'est comme ça.
Wow!
Donc, le Bloc, il demande depuis longtemps que ça cesse, là, cette espèce d'exception religieuse, qu'on peut pas se cacher derrière sa religion ou des livres sacrés pour dire des messages haineux. T'as le droit de lire ta Bible, là. Y a personne qui t'empêche de lire ta Bible. C'est juste si tu prends un passage et que tu dis, par exemple, que si un homme couche avec un autre homme, comme il couche avec une femme, ils ont commis tous les deux une abomination et seront mis à mort, leur sang est sur eux. Ça, c'est lévitique.
Fait que j'ai le droit de dire ça?
Ben, c'est dans la Bible.
Dans la...
Donc, c'est pas des propos haineux.
Ouais, bon, fait que ça veut dire que j'ai le droit d'être homophobe.
Ben,
selon ma religion.
En fait, dans la vraie vie, tu as le droit d'être homophobe. Mais t'as pas le droit de tenir des propos haineux.
J'ai le droit d'être haineux envers les homosexuels.
Mais t'as pas...
Si je suis un croyant, si je...
C'est ça. En fait, tu seras pas accusé. Quand Adil Charkaoui est allé dire qu'il fallait exterminer tous les infidèles, là, puis les gens qui étaient contre l'émancipation de Gaza, il n'y a pas eu d'accusation, mais le DPCP n'explique pas nécessairement ses décisions en détail. Donc, on ne le sait pas, mais on peut penser que ça n'aurait pas tenu la route à cause de l'exception religieuse. Donc, le Bloc et les libéraux se seraient entendus pour que ce soit terminé, cette affaire-là. Et Pierre Poilievre, lui, il aurait pu juste rien dire.
Oh, nom du Christ!
Oh que non! Il a déchiré sa chemise eucharistique. Je dis n'importe quoi, j'ai pas fait de catéchèse. Surréaliste, on crie à l'attaque contre la liberté d'expression et de religion. On a fait, là, écoute, ils ont fait un site web, puis là, tu peux signer une pétition, puis là, ça n'a pas de bon sens.
Puis là, je suis allé voir cette gang-là sur X qui, là, montre des vidéos de députés du Bloc puis du Parti libéral, dont Mark Miller, qui dit ça, c'est des propos haineux. Et là, les commentaires en bas. Oh my God!
Non, c'est un peu décourageant. C'est à l'âge de Pierre. Choc culturel, là.
On est à l'âge de Pierre.
Bien, c'est ça.
Puis, on est à la pendaison publique de ceux qui vont dire que la religion tient des propos haineux.
Écoute, j'ai bien du mal à imaginer les députés conservateurs québécois aller défendre ça dans les médias ces jours-ci. Ça doit être gênant pour eux parce que c'est vraiment le fossé culturel entre le Québec et un certain Canada, parce qu'il faut le dire, c'est pas tout le monde au Canada, mais quand même, la liberté de religion est quelque chose de vraiment plus sacré dans le reste du Canada qu'au Québec. Ouais. Au Québec, on considère davantage... C'est comme de... La chose commune à penser, c'est que ta religion, t'as le droit de la pratiquer, mais t'as pas d'affaire à nous l'imposer. Mm-hmm. Tu peux surtout pas te cacher derrière la religion pour dire des propos haineux. Là. Ça nous semble assez le minimum dans la vie. Puis quand tu regardes regarde tous les efforts que Pierre Poilievre a fait dans les dernières années pour connecter avec le Québec, et moi, je lui reconnais un paquet d'efforts. Il vient régulièrement au Québec, fait des entrevues, il se rend disponible.
T'as entièrement raison.
Il a fait une plateforme spécifique au Québec pendant la dernière campagne électorale. Écoute, c'était toutes les demandes du Québec qui étaient dedans. Ouais. Là. Il était comme « je vous donne tout ce que vous voulez ». Puis là, il fait une affaire de même, à part qu'il dit que Jésus-Christ est notre sauveur. Puis là, il déchire sa chemise parce qu'on veut plus qu'Adil Charkaoui menace les gens de mort au nom de la religion. Sérieusement, tu retombes à zéro, tu retombes à la case départ.
Pascal, imagine, on va prendre notre émission puis on va la déménager à Radio Religion. Puis là, non. On va pouvoir dire plein de propos haineux.
Non, je penserais pas, mais c'est ça, la limite doit être tracée.
Ben non, c'est ça, exactement. Bon, j'ai dit tantôt que j'étais en train de devenir souverainiste puis que j'étais prêt à sacrer mon camp. Puis ce qui est le fun dans le fait que je vais pouvoir sacrer mon camp, c'est que je vais pouvoir sacrer mon camp avec un troisième lien à l'Est. On écoute François Legault.
Ben, on a actuellement Jonathan Julien qui est en train de revoir le tracé, mais bon, évidemment, il faut tenir compte aussi du coût du troisième lien qu'on souhaite minimiser, mais on va aller de l'avant avec un troisième lien. On espère s'entendre, entre autres avec Bruno, sur le tracé.
Mathias Turcotte, qui est en direct de l'Hôtel de Ville. Mathias, est-ce que tu étais à une conférence de presse de 2014 ou 2018 ou on est bien en 2025?
On était de retour. C'est bizarre, hein, parce que il y a eu plusieurs occasions du côté de François Legault de fermer la porte. Comme on l'a relancé à plusieurs reprises sur est-ce qu'on va revoir le corridor? Puis, sans nécessairement ouvrir la porte à revoir le corridor, à aucun moment il l'a fermé non plus. Même d'ailleurs, ça sous-entend que c'est une option quand il dit Jonathan Julien est en train de revoir le tracé, ça sous-entend un peu également. Donc, est-ce qu'on pourrait voir, comme plusieurs d'entre nous le craignaient, un François Legault qui arrive en avril puis qui dit en bon sauveur à toute la nation québécoise, je vous ai écouté, le troisième lien, je vais le faire à l'Est à la place.
Antonine et Pascal, vous votez CAQ, ça arrive?
Moi, j'ai décroché, moi, de ce dossier-là. Là. J'en peux plus, je m'excuse.
Il y a juste moi qui est encore heureux.
Ben, moi, je pense que les gens, pour la plupart, ne savent même pas s'ils peuvent croire à ce qu'ils entendent.
c'est
clair. Il l'a dit avec une certaine hésitation, on dirait, Mathias, même s'il n'a pas, fermé la porte, on sent que c'est vraiment dans les cartons pour la CAQ.
Oui, mais... C'est dur à dire si c'est dans les cartons ou pas, parce qu'en même temps, on a le ministre des Transports que ça fait quand même plusieurs sorties publiques qu'il fait en disant « Non, non, on revoit pas le corridor, on garde le corridor central. » Donc, ça a été un peu une surprise, je pense, pour tout le monde de voir François Legault qui manque un peu de support face aux propos tenus par son ministre, j'ai presque le goût de dire. Là. Je serais pas prêt à dire nécessairement que c'est dans les cartons. Mais en tout cas, une chose est sûre, il faut être prudent parce qu'on pourrait voir la CAQ qui essaye de se faire élire pour une troisième fois.
Ouais.
Sur une
Mathias, je t'interromps deux secondes parce que je veux qu'on aille entendre Moncef Déragé, député du PLQ.
Correct qu'on les nomme et qu'on les mette dehors. Mais moi aussi, je suis tanné de voir tout cela.
Est-ce que vous êtes satisfait du travail de votre chef? Là, vous l'avez dit, là, ça fait plus de 10 jours qu'il dit « je sais pas, j'étais pas au courant ». Êtes-vous satisfait, vous, comme député?
Ben, il a lancé une enquête. Je pense que l'enquête, le juge Fournier, ça a été, son mandat a été défini vendredi. Il va enquêter, va faire une enquête. Il va y avoir un rapport et le rapport sera rendu public. Mais encore une fois, je suis tanné, comme la plupart de mes collègues. Il faut mettre toute la lumière sur ce qui se passe.
Ce qui se passe avec Marois Risky.
Mon chef déragé, Antonine, là, ça n'est pas qu'il s'est fait tasser par Pablo. Hey, il est découragé. Genre.
Ben, honnêtement, il a été très, très bon joueur, ouais. Joueur d'équipe. T'sais, sa ligne était bonne, mais tu sens que vraiment... il était leader quand c'était Marc Tanguay. J'allais dire Marc Tanguay.
Marc Tanguay parce que c'est Mark Miller.
Miller,
mais le français pas en déclin.
Donc, Marc Tanguay était chef par intérim. Pablo Rodriguez gagne la course, le remplace dans ses dossiers, pas très content, etc. Puis là, ben évidemment, la chenoute est pognée. C'est sûr qu'il doit se dire, regarde, c'est ça. Vous le vouliez? Vous vouliez ben, Pablo ça. Rodriguez? Ben, voilà. Vous l'avez.
Ah oui, vous avez cette ombre de corruption. Mathias, on écoute ce que François Legault avait à dire sur le financement du tramway.
Ben, on est encore en discussion avec le gouvernement fédéral pour ce qui est de la part du fédéral, mais pour ce qui est de la contribution du gouvernement du Québec, puis de la contribution de la Ville de Québec, puis les liens avec CDPQ Infra, on s'entend
parfaitement. Le projet n'est pas conditionnel aux 40 % d'Ottawa.
le projet va aller de l'avant. Puis moi, j'ai confiance qu'Ottawa, qui nous a déjà dit qu'ils mettraient leur part, qu'ils vont faire leur part.
Fait qu'à Stéphane Lachance qui nous parlait que je veux rencontrer le ministre Lightbound pour le 40 % du fédéral, ça a peu d'importance, Mathias, parce que ça va être la caisse de dépôt qui va payer si jamais le fédéral donne pas 40 %.
Bien, c'est ça qu'on semble commencer à comprendre de plus en plus. Là. Ce serait un peu l'option de rechange, l'option de secours. Par contre, du côté de François Legault, c'est sûr qu'on peut pas arriver sur la place publique puis dire ouvertement, si le fédéral paye pas, la caisse de dépôt va mettre plus d'argent dans le projet, parce que là, on vient ouvrir la porte complètement au fédéral de dire, payez pas notre projet, on va le faire de toute façon. C'est sûr que faut qu'il continue à peser sur le bouton en disant, on va avoir le financement du fédéral, faut que le fédéral donne son 40% tel que promis, mais de plus que ça avance, plus qu'on sent que même si le fédéral donne pas le 40%, que ce soit la caisse de dépôt ou encore le gouvernement, on va trouver un moyen de pallier à un endroit ou à un autre.
Oui, Mathias, je trouve que ça illustre parfaitement comment le gouvernement s'est peinturé dans le coin, dans le dossier, parce que puis ça arrive souvent dans de nombreux dossiers rebondissements de ce projet-là, mais quand on parle du financement du fédéral, si François Legault dit non, c'est correct, on va le faire coûte que coûte, bien là, ça enlève de la pression sur le fédéral pour donner de l'argent, tu as tout à fait raison. Et si, au contraire, on dit, bien non, c'est conditionnel à l'argent du fédéral, les gens vont dire, bien c'est ça, il va avoir une porte de sortie, ça se fera jamais. Donc, on continue de ne pas croire, peu importe le positionnement que le gouvernement prend, et ça démontre à quel point le lien de confiance sur ce dossier-là a tellement été brisé, ça fait... 2 ans maintenant, que 2 ans et demi à peu près qu'on a tiré la plug, et que ça fait 2 ans que le gouvernement a remis le dossier sur les rails, et en 2 ans, ils n'ont toujours pas réussi à convaincre que ça allait se faire.
Donc, ton point, peu importe ce qu'ils annoncent, c'est qu'il y a une porte de sortie où ils vont pouvoir...
Les gens vont, en fait, peu importe ce qu'il dit, les gens vont voir qu'ils se gardent une porte de sortie où ils vont trouver une manière d'interpréter ça et que ça veut dire que ça se fera pas.
Mm-hmm. Non,
personne n'y croit.
T'as raison. Ben, personne n'y croit parce que la CAQ a tellement insisté autant dans le troisième lien que le tramway que ça finit en sorte que
mais
personne n'y
croit. De toute manière, tout au long de la journée, puis demain, checkez bien dans l'actualité, on va revoir des acteurs de l'actualité qui vont venir se prononcer en disant pourquoi c'est pas possible, pourquoi ça devrait être à l'ouest, encore enfin à l'est pour telle raison. Ça va être vraiment de la redite, là.
En effet, et parlant de ça, on va laisser aller Mathias Turcotte parce qu'il va aller au point de presse d'avant-conseil de Stéphane Lachance et de Respect citoyen. Donc, quand tu parles d'un premier acteur qui va ramener ça, Pascal, c'est dans 7 minutes que ça se produit.
On va voir l'opposition de Québec chauffe.
Exactement. Mathias, on t'écoute dans le retour pour un résumé justement de ces conférences de presse-là de pré-conseil. Ça va être intéressant d'entendre justement Bruno Marchand sur sa rencontre avec François Legault.
Oui, j'ai super hâte de voir sa réaction aussi. Côté troisième lien, là,
ouais.
Juste ajouter pour finir, là, François Legault a dit que du côté du tracé, on allait vouloir convaincre Bruno Marchand choisir un trajet qui convient au maire. Donc, est-ce que Bruno Marchand a émis un trajet en particulier qui lui conviendrait mieux? Ça va être à voir dans le point de presse tout à l'heure. Puis je vous présente ça vers 14h30 dans le retour.
Merci beaucoup, Mathias Turcotte. À tantôt.
Salut.
Salut, merci. Je termine là-dessus. C'est drôle, hein, comment un maire Marchand qui est maintenant rendu majoritaire à 18 conseillers municipaux et à 49%, tout près de 50% dans les votes, soudainement, la CAQ en prend soin.
Oui.
C'est drôle, hein, ce que ça fait à la popularité, hein? Le Bruno Marchand, c'est le ticoun qu'on mettait dans le coin. Puis
on
là,
y a enlevé le tramway, mais on lui donne un troisième lien. C'est un peu ce qu'on a compris ce matin.
C'est ça. Ouais. Exactement. Fait que là, soudainement, ce que Bruno Marchand dit... Hey, ça a de l'importance.
C'est fou que des fois, comment la table revire de bord.
Oui, parce que si on veut être élu dans la région de Québec, là, lui, il a eu 50%. Fait qu'on pourrait peut-être s'associer avec.
Ben, il y a eu une époque où la CAQ était dans le firmament des sondages et de la popularité. C'est sûr que l'humilité est peut-être plus présente aussi. Là,
exactement. 418-971-1021, c'est le numéro pour toujours réagir. Ici, justement, on a un excellent texto. Marc Tanguay savait ce qui se passe dans son parti. C'est pour ça qu'il n'a jamais voulu être chef. Ouais, ben moi, je disais ce matin, si Marc Tanguay veut vraiment être quelqu'un d'intègre, il devrait sortir aujourd'hui et dire « je m'en vais comme indépendant ». C'est fini, cette corruption-là des libéraux.
Oui, on se pose la question. Tout le monde serre les rangs, sauf que c'est un jeu dangereux parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir de
tout ça.
UPAC, directeur général des élections, enquête interne, c'est les journalistes qui fouillent, il a là.
Oui, puis s'il sort de la corruption, ben c'est tout le monde qui va être entaché, oui. Pas juste Pablo Rodriguez. Antonine Iaccarini, c'est toujours un plaisir.
À demain.
À demain, Pascal CV. Nous, on suit après la pause avec un bloc nouvelle et je vais vous présenter ces vidéos très choquantes tournées avec des personnes itinérantes à leur insu ou... Un citoyen, je ne veux pas dire qu'il est de Québec parce qu'il peut venir de n'importe où dans la province, s'amuse à leur remettre des joints de potes et de l'alcool en leur posant des petites questions sur la politique. C'est vraiment très dégradant pour nos personnes itinérantes. Je vous fais entendre ça immédiatement après cette courte pause à Boulevard 101. C'est l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.